nous prenons la Bible dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3. À partir du verset 7. Apocalypse 3, 7, il est écrit ceci. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc verset 7 encore. Voici ce que dit le Saint à l'église de Philadelphie. Le véritable, celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voilà ce que disent les Écritures. La clé de David, David était roi, et il y avait une clé qui était réservée à l'intendance. Donc à partir de cette clé-là, on gérait toutes les provisions, tout ce qui concernait aussi l'arsenal, donc l'armée, les armes. Et donc celui qui avait la clé à l'époque donc était un homme très puissant, parce que c'est par lui que venaient toutes choses, la nourriture, les provisions, le matériel pour la guerre, le matériel pour la construction, beaucoup de choses. Donc, et le Seigneur veut dire par là que toute chose qui contribue à la vie et à tout sur terre, c'est lui qui a la clé. Donc, il a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Et maintenant, il promet à cette église qui a peu de puissance, mais qui a gardé la parole et qui n'a pas renié le nom du Seigneur, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Donc nous allons parler du langage de porte selon la Bible. Nous prenons aussi Colossiens 4. Colossiens 4, à partir du verset 2. Colossiens 4, à partir du verset 2. Colossiens 4, à partir du verset 2, « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes et le faire connaître comme je dois en parler. » Donc l'apôtre Paul use aussi encore de ce terme, porte, c'est le terme qui nous intéresse aujourd'hui. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce, priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes et le faire connaître comme je dois en parler. Donc, Paul demande à ce qu'on prie pour lui, afin que le Seigneur ouvre une porte pour la prédication de la parole. Non seulement une porte, donc ouvrir la possibilité qu'il prêche, mais il veut que cette prédication soit la parole véritable de Dieu, le véritable évangile, que ce soit une parole qui sauve réellement. Le langage de porte, c'est important de comprendre cela. Dans la vie chrétienne, nous devons aussi apprendre à grandir. Nous devons parler aussi de certaines choses qui sont importantes pour celui qui veut aller loin avec Dieu. Souvent, il y a des troubles au milieu des chrétiens parce qu'on n'a pas compris aussi le langage de porte. Nous voyons des chrétiens qui forcent pour que les autres les aiment. Ils veulent faire des choses pour attirer l'amour. Il y en a qui sont prédicateurs ou dirigeants de chorales, de réunions, de prières. Ils vont s'efforcer pour pousser les gens à faire telle chose, à faire ceci, à faire cela. Il y en a aussi qui veulent forcer le plan de Dieu. Avoir beaucoup de choses dans tel domaine, avoir beaucoup de choses dans tel autre domaine. Et souvent, beaucoup utilisent l'argument suivant, mais le Seigneur nous a demandé de prier et nous aurons la chose. Et certains vont même faire des jeûnes forcés pour forcer la main de Dieu. Nous devons comprendre le langage de porte. Vous savez, Jésus à la croix a crié, « Tout est accompli ». Et donc, il est écrit dans sa parole que sa parole est oui et amen. Donc, quand tu pries au nom de Jésus, tu es vraiment dans de bonnes dispositions pour que Dieu t'accorde tout ce que tu veux. Mais nous devons comprendre que Dieu reste souverain. Celui qui pilote son armée, qui pilote son église. Quand Jésus a parlé à Pierre, il a dit, tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon église. Donc, c'est Jésus qui bâtit son église. Donc, il y a plein de choses qu'on demande au Seigneur. Ça relève de son pouvoir de général, de savoir que c'est le moment ou non de faire la chose. Ce n'est pas parce que nous voulons que la parole de Dieu s'accomplisse, que les boiteux marchent, les aveugles voient, que le Seigneur va le faire au moment où nous voulons. Parce que ça procède de son calcul à lui. Il a un calcul. C'est un général. Il a des objectifs. Ce n'est pas qu'il n'honore pas sa parole, mais il va l'honorer au moment où lui l'a choisi. Mais ça ne contredit pas, parce qu'il y a des gens qui disent, mais oui, mais on a dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais le Seigneur à la croix criait, tout est accompli. Ça ne contredit pas ça. Pour bien expliquer ça, je peux parler du robinet. Vous savez, le robinet que nous avons dans nos maisons n'amène pas l'eau. L'eau est déjà là. Vous savez, il suffit pour vous en rendre compte de couper un peu avant le robinet. Vous allez voir que l'eau va sortir. L'eau est déjà là par un système, le système de château d'eau. Ça fait que nos robinets n'ont besoin que d'être ouverts pour que l'eau sorte. Mais l'eau est déjà là dans nos maisons. C'est ça le tout accompli du Seigneur. Le Seigneur a tout accompli. Donc, que ce soit les miracles, que ce soit les maisons, que ce soit les guérisons, que ce soit les délivrances, que ce soit la prédication, nous avons toutes ces bénédictions. Elles sont oui et amen, elles sont avec nous. Mais c'est Jésus qui a la clé de David. Comme il vient de dire dans Apocalypse au chapitre 3, ce n'est pas les chrétiens qui ont la clé de David. Jésus reste le seul à avoir la clé de David. Donc c'est lui qui ouvre les robinets. Mais la bénédiction est déjà là. L'eau est déjà là dans nos maisons. Coupez un peu avant le robinet, vous allez voir. L'eau va sortir. C'est déjà dedans. Mais sauf que il faut ouvrir le robinet pour que ça coule. Donc le robinet sert à ouvrir la porte à l'eau qui est déjà là. Et donc Jésus lui-même aussi est celui qui ouvre les portes. Je vais vous donner une petite différence. Il y a une différence entre prier pour qu'un boiteux marche, prier pour qu'un aveugle voie, tous les chrétiens peuvent le faire. Mais donner l'ordre, tous les chrétiens ne peuvent pas le faire. Il y a une différence entre prier et donner l'ordre. Les apôtres, ils ont donné l'ordre. Il a dit, lève-toi et marche. Ça, c'est donner un ordre. Mais nous tous, on peut prier pour quelqu'un qui est paralytique. Nous prions que tu te lèves, Seigneur, agis, qu'il se lève et qu'il marche. Ça, c'est donné à nous tous. Et il peut aussi marcher. Mais quand quelqu'un donne l'ordre, c'est quelqu'un qui a vu en esprit qu'une porte lui est ouverte. Lui, il a senti que Dieu m'a ouvert la porte, cet homme-là va marcher. Et il donne l'ordre, il a cette assurance-là. Ce n'est pas la même chose. Donc, il n'y a pas contradiction entre le fait que Jésus a la clé de David et le fait que les promesses qu'ils nous ont faites sont vraies. Elles sont vraies. Les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, ils sont vrais. C'est des vraies promesses. Et nous pouvons toujours continuer à prier. Donc, si on a quelqu'un en face de nous qui est malade, on prie pour sa guérison. Si on veut voir une ville sauvée, on prie. Mais l'ordre, les instructions, l'autorité, c'est Jésus qui a la clé de David. C'est Jésus qui va dire à un moment donné, voilà, tu peux y aller. Et à une telle personne, rien ne lui résiste parce qu'il a reçu l'autorité, parce que la porte lui est ouverte de la chose. Il y a des moments, vous allez chercher à savoir, mais qu'est-ce que cette personne a dit pour que les gens soient touchés? Vous ne voyez pas quelque chose d'extraordinaire. Il a dit 4 ou 5 phrases, mais ça a suffi à toucher, à changer le cœur de quelqu'un. Mais vous, vous allez lire tout un livre, ça ne fait rien du tout. Parce que la porte est fermée. C'est la même parole, mais celui qui a la clé de David, celui qui décide d'ouvrir ou de fermer, a décidé de fermer. C'est une réalité. Et souvent, beaucoup de chrétiens aussi travaillent pour des choses où les portes sont fermées par Dieu lui-même. Et ils se fatiguent. Après, ils condamnent Dieu en prétextant que les promesses de la Bible sont là. Pourquoi ça ne s'accomplit pas? C'est parce qu'ils ne vivent pas dans le discernement. Lisons Actes des Apôtres au chapitre 16. Actes des Apôtres, chapitre 16. Il est écrit ceci au verset 6. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. « Passe en Macédoine, secours-nous. » Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Amen. Ce passage-là nous explique, nous montre c'est quoi la logique de porte. Parfois, Dieu ferme. Mais pourtant, ce qu'on veut faire, c'est quelque chose de logique, bibliquement parlant, mais Dieu a fermé la porte parce que c'est seul Jésus qui a la clé de David. Paul veut aller annoncer la parole en Asie. Qu'est-ce qui est dit? Il a été empêché par qui? Par le Saint-Esprit. Mais pourtant, prêcher la parole, c'est une bonne chose. D'ailleurs, ça fait partie de la mission de Paul. Mais sauf que l'eau est là, mais c'est Dieu qui doit ouvrir les robinets à chaque fois. C'est lui qui a la clé de David. Puisque Dieu n'avait pas dit à Paul d'aller en Asie, Paul a compris ça, il s'est arrêté. C'est la sagesse que les chrétiens d'aujourd'hui n'ont pas. Ils veulent forcer la main de Dieu en prétextant que ce qu'ils font, c'est écrit dans la parole, en prétextant qu'ils ont raison, en prétextant que c'est logique. Non, il ne suffit pas que ça soit logique, il faut que le robinet s'ouvre, il faut qu'on t'ouvre la porte. Si on ne t'ouvre pas la porte, c'est vain de continuer à vouloir travailler. Il faut discerner les choses, il faut grandir. Pour aller plus loin avec Dieu, il faut connaître ces choses-là. C'est Dieu qui ouvre. Personne ne peut fermer. Et celui qui ferme, personne ne peut ouvrir. Et Paul a arrêté. Autre chose encore. Au verset 7, arrivé près de la Mysie, il se disposait à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Une fois de plus, ils veulent aller quelque part prêcher. C'est l'Esprit qui ferme la porte. Mais combien de gens n'a-t-on pas vu vouloir forcer alors que l'Esprit fermait la porte? Ils se sont fatigués et ils en sont sortis déçus et dépités, perdant un peu de foi. Alors que quand Dieu est avec nous, ce que nous faisons nous apporte la foi. Mais souvent, on a fait des choses, on en sort avec une perte de foi. Peut-être c'est peut-être c'est que la porte était fermée, mais nous, on a voulu forcer. J'ai été une fois invité dans une église, mais la personne qui dirigeait la réunion avant la prédication, mais elle forçait. J'ai eu l'impression qu'elle faisait un combat de boxe, tellement elle voulait forcer pour attirer une certaine gloire. Crier sur les gens, ah, faites ceci. Puis donc, tu sens que la personne veut à tout prix qu'il y ait quelque chose qui se passe. Non, bien-aimé, c'est Jésus qui a la clé de David. S'il ouvre, les choses se passeront bien. S'il ferme, tu as beau forcer, rien ne se passera. C'est lui qui a la clé de David. C'est Dieu qui ouvre les portes, c'est Dieu qui ferme les portes. Nous devons en prendre conscience. Pourquoi? Parce que souvent, ce que Dieu fait, ça nous dépasse. Et l'apôtre dit dans 1 Corinthiens, au chapitre 1er, versets 26 à 27, que parmi les gens qui étaient au milieu des chrétiens avec qui Dieu faisait de grands exploits, il n'y avait pas des gens grands intellectuels de leur époque. C'était des simples personnes. Parce que c'est Dieu qui a la clé de David. C'est Jésus qui a la clé de David. Il l'ouvre. Et souvent, lorsque Dieu veut faire quelque chose, nous nous réfléchissons sur la faisabilité matérielle de la chose. Nous réfléchissons sur le processus. On est des humains, on a une mémoire. Notre mémoire se rappelle de la manière dont Dieu s'est employé ou bien la nature ou je ne sais quoi s'est employé pour faire obtenir quelque chose. Alors quand on pense, Dieu nous donne une vision, on a l'habitude de penser, mais comment ça va s'accomplir? Ça va se faire, quelle sera la procédure? Et le fait de penser à cette procédure, le fait de regarder à nos capacités, le fait de réfléchir à qui va nous aider, tout ça est un blocage pour que Dieu ouvre les portes. Parce que c'est lui qui a la clé de David. Alors quand on commence à réfléchir à sa place, comment arriver à ce résultat-là que nous semblons recevoir, nous bloquons l'action du Seigneur. Parce que c'est une action qui est liée à la foi. Nous devons croire. Il te montre une vision, toi tu crois, un point c'est tout. Mais quand tu commences à planifier l'accomplissement de la vision du Seigneur, tu bloques la vision du Seigneur. Parce qu'il n'a pas besoin de l'aide d'un homme. Il a dit, c'est moi qui ai la clé de David. J'ouvre, c'est moi qui ouvre. C'est clair. Ce n'est pas comme nous, on a cette liberté d'ouvrir le robinet. Là, dans l'esprit, c'est Jésus qui a cette liberté-là, cette capacité-là. Et lui seul, pas quelqu'un d'autre. Lui seul peut ouvrir. Alors, quand on commence déjà à planifier comment la vision de Dieu va s'accomplir, nous allons essuyer plusieurs échecs pour nous rappeler que c'est Dieu qui ouvre. Et les vrais serviteurs de Dieu d'autrefois et d'aujourd'hui encore, je crois qu'il y en a toujours, ont toujours fonctionné avec la logique des portes. Quand Dieu leur ouvre la porte, ils avancent. Quand Dieu ferme, ils attendent. Et ainsi de suite. Et quand Dieu leur ouvre une grande porte, ils croient toujours. Joseph a dû attendre des années pour vivre ce que Dieu lui avait dit, que ses frères se prosterneront devant lui. Mais il a cru que c'était un songe venu de Dieu et il n'a jamais désespéré. Il a cru que Dieu lui a ouvert une porte. Et notre frère le dit, priez pour nous, pour que Dieu nous ouvre une porte pour qu'on parle de lui. Quelqu'un qui comprend ce principe va être quelqu'un qui va être très, très attentif à Dieu. Et ça va être quelqu'un qui saura bien prier parce qu'il sait que c'est Dieu qui ouvre les portes. Ce n'est pas son intelligence. Vous voyez, même dans les milieux chrétiens, on voit des gens user un peu d'artifice, user parfois de manipulation pour obtenir des résultats. Parce qu'ils n'ont pas compris que c'est Dieu qui ouvre la porte. Il est écrit dans Proverbe 16, 17, je crois, que Dieu, quand il approuve nos voies, même nos ennemis vont contribuer à ce que sa volonté s'accomplisse. Même nos ennemis, donc il peut toucher tes ennemis même pour t'aider à accomplir sa mission. Parce qu'il t'approuve. Alors, est-ce que vous pensez que nous avons droit à faire des raisonnements quand Dieu nous montre une porte ouverte? Non. Parce qu'il peut utiliser même nos ennemis. Qui peut réfléchir en se disant, mes ennemis m'aideront? C'est contradictoire. Tu joues un match de football, tu dis que l'équipe adverse va m'aider à la battre. Donc, vous voyez que pour servir Dieu, si tu fais entrer ton raisonnement, tu vas échouer certainement. Parce que ton raisonnement ne peut pas comprendre que ton ennemi t'aide. Mais Dieu lui dit que s'il approuve tes voies, il va même disposer les gens qui sont ennemis favorablement à toi. Donc quand on sert Dieu, on doit plus s'attendre à notre raisonnement, mais s'attendre à sa voix. Qu'est-ce qu'il a dit? Quelle porte il m'a ouverte? Et Paul était attentif toujours à cela. C'est très important, bien-aimé. C'est vrai, quand quelqu'un sait que Dieu lui a ouvert une porte, il a une autorité. Nous le voyons avec toujours Paul. Il s'est retrouvé dans un navire, dans la tempête, dans des conditions climatiques difficiles. Mais une nuit, un ange du Seigneur est venu le voir pour dire, « Paul, ce bateau et les gens plutôt qui sont à l'intérieur de ce bateau, ben, Dieu te les a donnés. » Ça veut dire en esprit que leur avenir dépend de toi. C'est ce que ça veut dire quand Dieu te dit, je te donne la ville, je te donne... Voilà, ça veut dire que l'avenir de la chose que Dieu te donne dépend de toi. Et c'est ainsi que Paul s'est réveillé et a dit au capitaine et au patron, il a dit, suivez tout ce que moi je vais vous dire. Parce qu'un ange du Dieu que je sers est venu me voir pour dire qu'il m'avait confié vos vies. Donc écoutez mes instructions et aucune vie ne se perdra. Et c'est ce qui s'est passé. À un moment, ils ont voulu ne pas écouter. Paul a dit non, ne tuez pas les prisonniers, ne laissez personne sortir. Écoutez, suivez mes instructions. Et effectivement, malgré la tempête, malgré le fait que le bateau avait fait naufrage, tout le monde est resté vivant. Parce que tous ces gens-là étaient confiés à Paul. Donc Dieu avait donné à Paul tous ces gens-là. Et Paul les a gardés en esprit, en considérant que c'était lui le responsable de tous ces gens-là. C'est ça l'autorité, c'est ça la porte. Quand Dieu ouvre une porte, dans le monde spirituel, il y a une autorité qu'on reçoit et les choses vont fonctionner en fonction de cette autorité-là, parce que c'est Dieu qui décide de tout sur la terre. Il est tout puissant. Daniel dit que c'est lui le maître des temps et des circonstances. Dans Daniel 2, 21, il dit que c'est lui qui met les rois et c'est lui qui les enlève. Vous savez, bien aimé, quand moi j'ai su que Sarkozy n'allait pas passer, c'est lorsque j'ai vu que, à deux reprises, on lui a manqué de respect par les gens. Et dans le monde spirituel, ce qui s'était passé, qu'on prenne le président au collet, qu'on le fasse tomber par un homme, avec tous ces gardes du corps. Et un autre événement a eu lieu dans le sud de la France, je crois, où il y avait 100 manifestants anti-Sarkozy, il n'y en avait pas beaucoup, 100 seulement, qui avait mis une telle pression que Sarkozy s'est retrouvé dans un bar attendant qu'on calme les manifestants, donc coincé dans un bar en attendant qu'on calme les manifestants au dehors. Quand j'ai vu ces deux événements, j'ai compris qu'il avait perdu son autorité spirituelle. En esprit, quand quelque chose comme ça t'arrive, ça veut dire que c'est fini pour toi. Donc tu n'es plus l'autorité parce que 100 personnes arrivent à faire enfermer le président dans un bar, 100 personnes seulement, et une personne arrive à prendre le président dans ses mains, le faire tomber, ça veut dire que symboliquement, il n'est plus le président. C'est fini. On passe à autre chose. Et c'est comme ça, quand on est attentif à Dieu, on va savoir quand c'est fini pour quelqu'un. Hitler, c'était fini pour lui quand ? Lorsqu'il a perdu la bataille d'Angleterre. Donc, quand il a perdu la bataille d'Angleterre spirituellement, c'était fini. Donc, les grands de ce monde savaient déjà que l'Allemagne a perdu la guerre. Donc, parce que c'était la bataille, je crois, en 1941, la bataille principale, eh bien, ils l'ont perdue. C'est vrai que l'Angleterre a payé un grand prix pour cela, mais cependant, le fait qu'ils renoncent, pourtant, l'Allemagne n'a pas engagé toutes ses forces, mais le fait qu'ils renoncent à continuer cette bataille-là, c'était en esprit un signe que c'était fini pour eux. Ils allaient, c'était qu'en 1941, je crois, il y avait encore 4 ans. Après, il y a eu encore 4 ans. Mais c'était déjà un signe que fuir une petite île comme l'Angleterre, comment tu veux gagner le monde entier? Voilà. Si tu échoues à gagner une île comme l'Angleterre, comment veux-tu gagner le monde entier? Donc, en esprit, c'était déjà clair que l'Allemagne n'allait pas gagner. Après, tout le reste a donné l'impression qu'ils étaient toujours forts. Ce n'était qu'une impression. Vous savez, en esprit, on peut saisir beaucoup de choses à l'avance. Parce qu'il y a la logique de porte ouverte et de porte fermée. Donc, quand Dieu ouvre une porte, on voit. Et après, la chose peut s'accomplir même 10 ans après. Mais déjà, quand la porte est ouverte, les gens qui sont branchés à Dieu sentent que là, la porte est ouverte. Siméon, quand est-ce qu'il a glorifié Dieu? Quand il a vu Jésus bébé, Jésus n'avait même pas parlé. Il le voit bébé au temple. Mais il a su que la porte était ouverte. Il a pris le bébé et il a loué Dieu. Il a dit, Seigneur, maintenant je peux retourner chez toi. Tu peux me récupérer parce que j'ai vu le Messie, la gloire d'Israël. Mais il n'était que bébé. Mais lui, il savait que c'était ce bébé-là qui allait être le, qui était le sauveur de l'humanité. Parce qu'il était branché. C'est écrit, quand vous lisez le texte, c'est écrit que l'Esprit Saint avait dit à Siméon qu'il ne mourra pas avant de voir le Messie. Et quand il a vu le bébé, il a su que c'était lui. Son cœur était dans la joie alors que ce bébé n'avait encore rien fait. Il savait que la porte était ouverte. Vous savez, les gens qui comprennent ces choses, vous les verrez tout le temps à l'aise. Parce qu'ils marchent en fonction des portes. Ils savent que, bon, là c'est ouvert. Ça marchera même si les humains parlent, même si les humains s'opposent. Dieu m'a déjà ouvert la porte là-bas. Là c'est fermé, inutile de m'époumoner pour ça. Mais alors les gens qui marchent sans discernement, ils vont aller taper là où c'est fermé par Dieu. Mais qui peut vaincre Dieu? Personne. Donc ils vont se fatiguer. Même en croyant jeûner, nous on s'est fatigué dans la région parisienne. On a fait toutes sortes de jeûnes. Hein? Mais c'était dans la chair. On voulait obtenir des résultats comme si c'était les choses de Dieu, c'était scientifique. Donc je jeûne 40 jours, j'ai la puissance. Je jeûne, fais comme ceci. Les choses de Dieu ne sont pas scientifiques. C'est lié à la foi. Et c'est lié à celui qui a la porte. Et c'est lui le général. Il a un plan d'action pour son église. Ce n'est pas un homme qui a le plan d'action. On peut toujours se réveiller un jour et dire, bon, j'ai une belle maison, j'ai de l'argent, j'achète des instruments et je fais une église. Mais bien aimé, ce n'est pas ça qui va faire une église. C'est celui qui a la clé de David. C'est lui qui ouvre. S'il n'ouvre pas, tu vas faire tout ce que tu veux avec tous les moyens que tu veux. Rien ne va se faire. Pensons bien aimé que si c'était l'argent qui arrangeait les choses spirituelles, Dieu nous en aurait donné beaucoup. Mais ce n'est pas tout ça. Ce n'est pas le talent oratoire de quelqu'un, mais c'est l'Esprit de Dieu. D'ailleurs, il le dit clairement dans Zacharie 4:6, ce n'est ni par la force, ni la puissance, mais c'est par mon esprit. Il le dit encore dans Jean 15, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est clair. Après, c'est nous qui avons transformé les versets bibliques pour obliger quelqu'un à parler en langue. C'est écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils feront ceci, ils feront cela. Et on veut obliger, mais non. Celui qui a la clé de David, c'est Jésus-Christ. D'accord, nous avons toutes ces choses, mais il y a quelqu'un qui ouvre là, le robinet, c'est Jésus. Nous devons comprendre ces choses, sinon nous allons entrer dans des forcings. Il y en a qui forcent à tout prix, veulent se marier, ils forcent. Mais c'est Dieu qui ouvre les portes. Et quand on force comme ça, on va se lancer dans des sentiers qui vont nous fatiguer. Vous savez, quelque chose qui nous amène une perte de foi, souvent, ce n'est pas Dieu qui est dans l'affaire. Quelque chose qui commence à nous détruire la foi, à nous enlever la force de servir Dieu. Ça montre que dans la chose, nous prenons pas comme Dieu le voudrait. On ne marche pas selon les portes ouvertes de Dieu, mais on marche selon notre logique à nous. Et c'est pourquoi ça entraîne la perte de foi, ça entraîne des troubles, ça entraîne le manque de joie. Il y a quelque chose qu'on n'a pas saisi. Et c'est ce qu'on on va donner comme conseil pour avoir les portes ouvertes du Seigneur. La solution est dans les deux passages qu'on a lus en premier, Apocalypse 3 et Colossiens 4. Mais nous devons nous habituer à la manière de fonctionner de Dieu. Dieu peut te dire à l'avance qu'un tel, vous savez, Dieu parle lui parfois, il parle au présent. Nous, quand on entend le présent, on se dit aujourd'hui. Mais Dieu, lui, n'a pas de futur, de passé et de présent. Il parle qu'au présent. C'est pourquoi Dieu va te dire, un tel est converti. Mais toi, tu te dis, donc aujourd'hui, il s'est converti. Non, Dieu l'a déjà vu converti. Donc lui, il parle au présent. Il dit, je te donne cette ville. Parce que lui, il parle au présent. Mais toi, tu te dis, c'est aujourd'hui. Et quand tu n'as pas la chose au temps de Dieu, tu commences à douter et tu commences à hésiter. Alors que c'est Dieu qui t'a bien parlé. Vous vous souvenez de tout ça, non? Il s'est rempli d'exemples comme ça dans la Bible. Hein? Abraham, on lui a promis l'enfant. Mais Dieu parlait de cet enfant comme d'une réalité tellement proche que Abraham, bon, sa femme s'est fatiguée d'attendre. Mais il est écrit, on vient de lire, c'est Dieu qui ouvre la porte et personne ne peut fermer. Si Dieu t'a ouvert une porte, ça ne se fermera pas. Ça ne se fermera pas. C'est lui seul qui ferme. Oh, lui n'ouvre pas pour fermer, bien-aimé, attention. Dieu n'ouvre pas pour fermer. Voilà. Il ferme certaines portes, mais quand il ouvre, ce n'est pas pour fermer. Il a dit à cette église d'Apocalypse, voilà, j'étais ouvert une porte. Il n'a pas dit, après, je fermerai. Non, j'étais ouvert une porte. Il a dit qu'il est celui qui ferme aussi, mais il n'a pas dit que la porte que lui, il ouvre, il ferme. Non, il ferme d'autres portes que les gens s'ouvrent par eux-mêmes, par la chair ou que Satan ouvre. Satan aussi peut ouvrir des portes. Vous ne voyez pas certains musiciens, parfois ils ont du succès. Satan leur ouvre des portes. On était dans un marché il y a quelques jours à Cayenne, en Guyane, et puis je voyais une dame qui faisait le karaoké en vendant des CD, bien-aimés. On a fait un tour. On a fait des courses, acheté des fruits. Au retour, je ne voyais toujours personne acheter un CD. Et je disais à l'évangéliste, tu vois que c'est... Dans le monde, ce n'est pas facile la musique. Hein? Donc cette dame-là, elle danse, elle s'époumonne, personne n'achète le CD. C'est là que, pourtant, le son semble bon. C'est là que le diable va venir. Bon, petit, tu vois que tu n'y arrives pas, il faut passer par les majors, il faut passer par un tel, et c'est là qu'on fait des contrats sataniques, et d'un coup, tout marche. Le diable ouvre aussi des portes. D'un coup, tout marche. Mais, les portes que le diable ouvre, Dieu, quand il décide, il les ferme. T'as beau crier, viens à moi le diable, la porte est fermée, il ne peut rien. William Schnobelen, c'était un grand sorcier américain. Il buvait même, pour vous expliquer quel niveau il avait atteint, il se nourrissait maintenant de sang humain. Donc la nuit, il allait accrocher des prostituées et c'était devenu un vampire réel. Donc quand vous voyez le film à la télé, mais c'est des réalités. Il y a des vampires. Moi, je l'ai vu ici à Rouen. Un monsieur qui m'a dit, on m'a vampirisé, une femme m'a mordu au cou pour me communiquer l'esprit de vampire. Et dès qu'on commence à parler de Dieu, son visage se transforme, il y a ça bouge, bien-aimé. Certains qui vont voir ça, ils vont prendre la poudre d'escampette, mais il faut pas fuir, parce que si tu fuis, c'est là qu'on te cogne par derrière. Donc il faut affronter ça en face, bien-aimé. William Schnobelen avait atteint un très haut niveau. Mais un jour, alors qu'il allait faire un chèque à ce qu'on appelle l'église satanique américaine, il déposait le chèque à la banque. Dans le reçu, la caissière lui fait une note. « Je prierai pour vous pour que Jésus vous sauve. » Rien que cette note-là, quand il a lu ça, c'était fini. Les portes diaboliques étaient fermées. Lui qui était un grand ami de Satan. Donc lui, il a été baptisé par Satan lui-même. Il lui a mis une pièce métallique. C'est une longue histoire. Donc il avait le téléphone direct pour parler au diable. Il y en a qui ont des téléphones indirects par 5 intermédiaires. Lui, c'était direct. Mais quand il a appelé le diable, pas de réponse. C'était fini. À partir de cette phrase-là qu'il avait lue, « Je prierai pour vous pour que Jésus vous sauve. » Rien que cette phrase-là a fermé la porte. C'est fini. Pourtant, cet homme-là, peut-être quelqu'un a dû lui prêcher pendant longtemps. Mais quand celui qui ouvre n'a pas ouvert, tu as beau parler, c'est très bien de parler, mais que ce soit encore dans la volonté de Dieu. Mais ce qui est important, c'est de faire la chose en obéissance au Saint-Esprit, parce que c'est celui qui ouvre. Il te demandera de parler au bon moment. C'est celui qui ouvre. On ne fait pas de bricolage. Donc malgré tout ce que Schnobelen avait fait, malgré tous les pouvoirs sataniques qu'il avait, cette phrase a suffi pour éteindre son feu satanique, pour fermer la porte de gloire satanique dans laquelle il s'était introduit. C'est ça la réalité. C'est que Dieu peut fermer les portes de Satan, mais quand Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Et quand Dieu ferme, personne ne peut ouvrir. Et les portes que Satan a fermées, Dieu peut les ouvrir. C'est ça la réalité. Nous devons chercher à ce que Dieu nous ouvre les portes. Pour tout. Que Dieu nous ouvre les portes pour tout. Parce que quand Dieu ouvre la porte, tout va se passer avec son autorité et aucun obstacle ne tiendra devant toi. Nous avons ces exemples dans la Bible. Dieu a dit à Samuel, va oindre David roi. Saül a tout fait pour que David ne soit pas roi. David a fini par être roi. C'est Saül qui est mort. Quand Dieu ouvre, personne ne peut fermer. C'est pourquoi, bien-aimé, dans certains pays, on se dit, mais on a tout fait pour enlever un tel président, il est toujours là. Mais si Dieu n'a pas dit non, ben il sera toujours là. C'est lui qui met les rois et qui les enlève. C'est ça la réalité. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans toute chose? Chercher Dieu. C'est ce que Paul explique dans Colossiens 4. Mais avant de donner les conseils pour que Dieu ouvre les portes ou les ferme, je souhaitais rajouter un autre élément. C'est que Quand Dieu, lui, te ferme une porte, lui-même, il te ferme une porte, c'est qu'il veut t'ouvrir une meilleure porte. C'est cela, la différence. Beaucoup de chrétiens ont voulu insister sur une porte alors que Dieu veut leur ouvrir une autre de meilleure. Ils voient bien que Dieu a fermé, mais ils insistent. Ils insistent en utilisant la manipulation, en utilisant la gentillesse charnelle, en utilisant l'argent, en utilisant les raisonnements humains. Ils veulent s'accrocher à une porte alors que Dieu a déjà tourné. Dieu a déjà changé de stratégie. Samuel, c'est lui qui avait oint Saül comme roi. Alors, Dieu dit à Samuel, je ne considère plus Saül comme roi. Mais Samuel continue à prier pour Saül. Seigneur, garde-le. Quelle était la fin? C'est que Dieu a fini par s'énerver sur Samuel pour dire, Samuel, tu arrêtes de prier pour Saül parce que moi, je l'ai déjà rejeté. Samuel, tu es quelqu'un de bon pour moi. Je t'aime beaucoup. Je ne veux pas que tu passes ton temps à prier pour quelque chose qui sert à rien, pour perdre du temps. Arrête de prier, plus qu'en plus tu pries, ça veut dire que tu t'opposes à moi. Voilà. Moi, j'ai rejeté Saül, toi tu continues à prier pour Saül, donc tu t'opposes à moi maintenant. Donc tu es plus bon que moi. Et Dieu a dit à Samuel, tu arrêtes. Et beaucoup bien-aimés font cette erreur-là, d'insister sur des portes fermées par Dieu lui-même. Ça devient une opposition à Dieu. Attention, bien-aimés. Réfléchissons à nos actes. Est-ce que c'est Dieu qui t'envoie? Est-ce que c'est Dieu qui t'a parlé? Voilà, il faut réfléchir à nos actes. Parfois, on va insister sur quelque chose alors que Dieu a déjà fermé la porte. Mais nous, on veut insister parce qu'on se dit, mais la Bible dit ceci, mais oui, mais est-ce que c'est Dieu qui t'a ouvert la porte là? C'est ça la question. Bien aimé, cette prédication n'est pas là pour nous amener à être inactifs et à être attentistes. Non, elle est là pour nous éviter le manque de discernement et la perte d'énergie dans des combats vains. Dieu t'a déjà ouvert la porte. Toi, tu vas encore tenir, comme on dit en français, c'est quoi? Défoncer les portes hein? Ouvertes. Mais la porte est ouverte, toi, tu prends un élan. Qu'est-ce qui va se passer? Pour défoncer la porte, alors que la porte est ouverte, toi, tu prends l'élan. Quand tu vas passer, tu vas aller où? Te cogner au mur là-bas. Hein? Parce qu'il n'y a pas, de blocage. La porte est ouverte. Et il y a beaucoup de chrétiens, la porte est déjà ouverte. Lui, il prend encore de l'élan. Calme-toi. Tu prends l'élan comme un buffle. Il y a quelqu'un, le Saint-Esprit dit, mais calme-toi, la porte est déjà ouverte. Allez, vas-y. Ne dépense pas de l'énergie inutilement. Comme Paul dit, il dit que je ne tape pas de coups dans le vide. La porte t'est ouverte, avance seulement. Mais pourquoi on veut dépenser de l'énergie? Parce qu'on veut être sûr que c'est nous qui allons faire la chose. On ne veut pas laisser à Dieu la gloire tout seul. On veut faire pour voir, pour sentir qu'on a fait. Mais quand Dieu t'ouvre la porte, pourquoi toi tu veux dépenser de l'énergie? Vas-y. Mais quand Dieu aussi a fermé, bien-aimé, là même si tu prends le plus grand élan, ça restera fermé. C'est ton cou qui va être brisé. Donc c'est pour nous éviter des embêtements inutiles comme ça. Restez sages. Et c'est aussi, bien-aimé, pour nous éduquer à être en communion avec Dieu. Connaître qu'est-ce que Dieu veut, comment il veut que je conduise les choses. Faire les choses ensemble avec lui. Ne jamais faire les choses seul. Quand vous faites les choses seul, vous ne savez pas si la porte est ouverte et fermée. Mais quand vous vous associez à Dieu, lui, c'est un associé qui ne se laisse pas entraîner dans n'importe quoi. Il te dira, mais là, je ne vais pas avec toi parce que j'ai fermé cette porte-là. Là, je vais avec toi parce que c'est ouvert. Vas-y, même si ça semble négatif le chemin, mais lui il est avec toi, il te dit, c'est ouvert quand même si ça semble fermé, c'est ouvert. Et tu es encouragé, tu y vas, même si tous les paramètres sont négatifs. ce que tu fais là, est-ce que c'est entraîné par Dieu ou pas? C'est important. Et je clôturerai en disant qu'il fallait savoir que quand Dieu te fermait une porte, c'était pour t'ouvrir une meilleure. C'est ce qui s'est passé avec Israël. Samuel était découragé parce qu'il se disait en tant qu'humain, Saül était physiquement, je l'ai déjà dit, physiquement Saül dépassait les enfants d'Israël d'une tête. Donc il était costaud physiquement, c'était un bon guerrier. Et donc Samuel en tant qu'humain trouvait bien qu'ils aient quand même un roi physiquement d'apparence de roi quand même. Mais lui, on l'a demandé d'aller oindre un enfant comme roi. En tant qu'humain, on se dit, bon, je préfère quand même le roi qui est costaud. Mais Dieu a dit, moi j'ai décidé que ce soit l'enfant là qui soit le roi. Voilà. Et souvent, on insiste parce qu'on n'a pas compris que c'est Dieu qui oint, qui donne la force, qui s'occupe de tout. Et on veut insister sur notre façon à nous. Alors que Dieu, ce qu'il propose, est meilleur que ce que nous, ce qu'il avait proposé avant. Parfois, c'est lui qui avait proposé avant, mais il veut t'amener à une autre étape, t'ouvrir une nouvelle porte. Et donc, quand il veut t'ouvrir une nouvelle porte, le système d'avant est devenu caduque, c'est fini. Mais nous, on ne veut pas que ça finisse. Alors que Dieu dit, mais pourquoi je vais garder deux systèmes? Je ne peux pas garder deux rois. Donc si je vous donne un nouveau roi pour Israël, l'ancien doit, je dois finir avec l'ancien. Nous, on ne veut pas. Et ça fait traîner la volonté de Dieu. Samuel ne voulait pas. Alors que c'est lui-même qui avait oint David. Acceptons d'entrer dans les nouvelles portes que Dieu nous ouvre. Mais ça passera par la fermeture des anciennes portes. Donc j'avais dit au début que Dieu ne fermait pas, mais en quelque sorte, quand il ferme, c'est pour continuer l'œuvre qu'il avait commencée d'une manière plus glorieuse encore. Donc ça continue toujours, mais l'ancien système est fermé. Et beaucoup sont tristes quand ils voient les portes se fermer devant eux. Ils se plaignent. Et ce n'est pas bon. Ils ne peuvent pas vivre 1 Thessaloniciens 5, 16. Qui nous dit « Soyez toujours joyeux ». Un vrai chrétien sait qu'une porte fermée, ça veut dire qu'une grande porte ouverte est annoncée. C'est pourquoi Dieu, ne voulant pas de l'ancien système, il le ferme parce qu'il ouvre un meilleur système, il nous fait amener dans une meilleure étape. Bien-aimé, je sais que quand les événements arrivent, on est des humains, on est triste, c'est vrai. Mais quand on est chrétien, aujourd'hui l'enseignement nous montre que quand on est chrétien, sachons que quand c'est fermé, soyons dans la joie. Parce qu'une plus grande porte s'ouvre. Donc soyons dans cette attente-là. De voir, ah, tiens, s'il a fermé là, c'est parce qu'il veut m'ouvrir quelque chose de grand. Soyons de ce genre-là. C'est pourquoi notre frère Paul nous dit quoi? Je me glorifie dans mes faiblesses. C'est pour quand je suis faible, c'est là que je suis fort. Donc il sait que quand il y a faiblesse, ça veut dire que son Dieu se prépare à le délivrer. Ce Dieu se prépare à lui donner une force plus grande pour compenser à cette faiblesse-là. Et donc, quand une porte se ferme, ça veut dire que Dieu veut t'ouvrir quelque chose de grand. Et quand tu vis dans cette logique-là, tu vas faire des exploits avec le Seigneur. Amen. C'est cela toute la parole. Dans Psaume 127, c'est écrit, hein, « Celui qui bâtit sans l'Éternel bâtit en vain. » Tu vas utiliser ton intelligence, ta beauté, le bon timbre de ta voix, ton éloquence, ta corpulence, ton argent, tu vas utiliser tout ça, tu bâtis en vain. Mais celui qui bâtit avec l'Éternel fera des exploits avec lui. Et des exploits éternels, ça continuera dans l'éternité. Alors comment faire que Dieu nous ouvre des portes? Ben, on l'a lu. Colossiens 4, on commence par Colossiens 4. On relit ce qu'on avait déjà lu. Colossiens 4. Cette fois-ci, on va lire jusque plus loin. Il dit au verset 2, Colossiens 4, « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois en parler. » Donc, quel travail à faire pour avoir des portes ouvertes, c'est la prière. Priez toujours, parlez à Dieu, priez. C'est en priant que Dieu nous parle, on reçoit des réponses, on sait quelle porte est ouverte, quelle est fermée. On doit parler à Dieu. Et quand on prie aussi, ça veut dire que c'est Dieu qui ouvre les portes, c'est lui qui a la clé de David. On confesse cela, on veut lui dire, ben, nous on est sans force. Voilà, c'est toi qui agis. Et on lui dit ça, pour toute chose, demandez, il est dit, il vous sera donné. On doit prier, c'est la prière qui ouvre les portes. Et vous savez, ces bien-aimés-là étaient tellement conscients que quand ils écrivent cette lettre, ils sont où ? Quand ils écrivent cette lettre, ils sont en prison, Paul et les autres. Mais regardez au verset 12, ce que Paul rajoute. « Epaphras, qui est de vôtre, vous salue, serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon, comme des hommes faits, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. » Voilà, ils étaient en prison. Epaphras continuait à prier pour les gens qui l'encadraient quand il était libre. Donc il considérait qu'en prison, il pouvait les diriger par ses prières, faire en sorte qu'ils soient protégés, qu'ils tiennent bon, qu'ils soient dans l'amour pour le Seigneur toujours. Donc ils étaient conscients que c'est Dieu qui ouvre les portes. Ils étaient conscients. Nous, on a vu parfois dans des conditions où vous arrivez dans un endroit où il n'y a pas vraiment de vrai évangile, mais vous allez rencontrer curieusement un chrétien exceptionnel. Vous dites, mais comment il est devenu chrétien exceptionnel comme ça? C'est Dieu qui ouvre la porte. Ah oui, Dieu ouvre la porte. Et on est étonné. C'est pourquoi les chrétiens qui comprennent ces choses prient beaucoup, parce qu'ils savent que tout se règle avec Dieu. Il y a même un verset qui m'a toujours épaté, Apocalypse au chapitre 7, qui dit, j'allais le dire en anglais, « Le salut appartient à notre Dieu. » Donc même le salut, c'est dans la poche de Dieu. Donc quand on veut le salut de quelqu'un, demandons-le à Dieu. Je veux le salut d'un tel. Il ne suffit pas seulement de parler. Il faut lui demander le salut de la personne à Dieu. Puisque le salut lui appartient. La prière, c'est capital. Savoir dire à Dieu, je suis sans force. Voilà, nous avons tel projet, nous avons telle chose à faire. Et Dieu va parler, et Dieu va expliquer les choses, et Dieu va agir. Il dit clairement, je suis celui qui ouvre la porte, et personne ne peut fermer. Deuxième conseil, Apocalypse 3. Apocalypse 3. Il est dit ceci, écrit à l'ange de Philadelphie, verset 7. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Amen. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Voici ce que Dieu dit à cette église-là. Tu as peu de puissance. Qu'est-ce que ça veut dire, tu as peu de puissance? Ça veut dire que tu te crois faible. Vous vous souvenez du passage qui dit « Heureux les pauvres en esprit ». Donc c'est comme si Dieu dit à cette église-là « Heureux êtes-vous parce que vous êtes des pauvres en esprit. Vous n'êtes pas des gens qui vous croyez forts. Voici parce que tu as peu de puissance. Tu te crois faible, tu te crois petit. » C'est très bien, j'aime ça. Parce que Dieu seul est grand. Nous devons réaliser qu'on est petit, on est faible. On ne doit pas venir avec des sensations comme si on était fort. Jésus dit que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. Il dit quand on arrive dans une fête, mettons-nous à la dernière place. Il dit que le plus grand parmi vous, c'est celui qui est le serviteur des autres. C'est celui qui est le plus petit. Il dit, mais voici parce que tu as peu de puissance. J'aime une telle attitude, dit Jésus. Deuxième attitude, tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. Bien-aimé, tout ton comportement, tous tes projets, ta façon de régler les problèmes, ta façon de marcher doit être encadrée par la parole de Dieu. On entend souvent aujourd'hui, moi je pense, moi je. Non, un vrai chrétien dira, il est écrit. Sauf lorsqu'il y a, ce n'est pas écrit, il dit, voilà ce qui est écrit, à partir de là, moi je pense telle chose, parce que la chose qui est liée à la discussion n'a pas une solution écrite clairement dans la Bible. Là, on peut comprendre. Mais il y a la plupart des choses ont des solutions directement écrites dans la Bible. Donc nous devrions dire « il est écrit ». Nous devrions gérer notre foyer en fonction d'il est écrit ». Nous devrions gérer notre façon de manger, de bâtir nos projets en fonction de ce qui est écrit. Et à partir de ce moment-là, le Seigneur sera avec nous. Il ne faut pas faire les choses parce que quelqu'un s'est agité, il a prophétisé quelque chose. Mais non, d'accord, on aime les prophéties, mais on doit tout vérifier en fonction de la Bible. Parce que dans les prophéties, parfois, il y a à boire et à manger aussi. Hein? Voilà, donc. Comme une sœur avait prophétisé le jour du retour du Seigneur. Or, le Seigneur a dit qu'on ne connaît ni le jour ni l'heure. Donc, il faut faire attention. Donc, nous devons revenir toujours à la parole de Dieu. Mener sa vie en fonction de la parole de Dieu. Quelqu'un parle du mal de toi, il est écrit, nous devons aimer nos ennemis. Nous devons rendre le mal par le bien. Voilà. Comment Dieu veut qu'on gère ses finances? C'est dans la parole de Dieu. Comment Dieu veut qu'on gère son foyer? C'est dans la parole de Dieu. Comment Dieu veut qu'on gère l'Église? C'est dans la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu. Il y en a des qui entendent qu'on les critique, ils sortent le psaume 109. C'est le psaume des prétendus chantres chrétiens parce qu'ils se faisaient pirater. Ils ont mis le psaume 109 pour quiconque va pirater leur chant. Vous savez, si vous lisez ce psaume-là, vous allez dire quand même c'est étonnant que des chrétiens utilisent de telles phrases, hein, maudire les enfants des gens qui vont pirater. Voilà, c'est parce que en réalité eux-mêmes ils ne sont pas chrétiens, quoi, parce que c'est écrit bénissez, ne maudissez pas. Voilà. Mais comme c'est dans le psaume 109, ils se disent bon, voilà, on est couvert par la parole. Non, vous n'êtes pas couvert parce que la loi a été donnée à Moïse, la grâce et la vérité sont venues avec Jésus-Christ. Ce qui a été écrit par David, c'était écrit dans un contexte, c'est pas le contexte actuel. Aujourd'hui, il nous est dit de bénir et de ne pas maudire. Donc, dès que les gens quittent l'église, on commence à les maudire. Non, ils sont libres. C'est Jésus seul qui est le chemin, la vérité et la vie. Quelqu'un quitte l'église, bon, qu'il suive Jésus, c'est ce qu'on va souhaiter pour lui. On ne va pas commencer à le maudire. Pourquoi le maudire? Dieu nous appelle à sauver et non pas à maudire. C'est ça, bien-aimé. Dès que quelqu'un quitte l'église, oh, psaume 109. Non, bien-aimé. Nous, quelqu'un quitte, Seigneur, bénis-le, que tu le conduises dans le chemin de la parole, toujours. Voilà. Parce que ce n'est pas nous la solution, c'est toi la solution. Si quelqu'un peut te trouver ailleurs, c'est bien. Le plus important, c'est d'être avec toi. Quand tu gères tout en fonction de la parole, bien-aimé, le Seigneur t'ouvrira des portes. Et personne ne pourra fermer. Et troisièmement, ne pas renier le nom de Jésus. Il y a beaucoup qui aiment la phrase. Bon, là, on met un peu la Bible de côté.
ils ont renié le nom de Jésus. Il y en a qui disent, mais je suis un homme quand même. Ils ont renié le nom de Jésus. Nous ne sommes plus hommes, nous ne sommes plus à dire, je mets la Bible de côté. Non, nous sommes déjà des enfants de Dieu, c'est trop tard. Du moment qu'on est enfant de Dieu, c'est Jésus. Ce n'est plus nous qui vivons, c'est Jésus qui vit en nous. Donc c'est Jésus qui doit nous diriger. Nous devons en toutes circonstances garder le nom de Jésus en nous, dans nos décisions. C'est le nom de Jésus. C'est très important. Quand on oublie le nom de Jésus, on finit très mal. Tu oublies que l'église, c'est à Jésus, ce n'est pas à toi. Même si tu es le pasteur, ce n'est pas à toi, c'est à Jésus. Donc il ne faut pas renier Jésus. Il faut que Jésus soit toujours le maître en tout. La solution, c'est Jésus. C'est tout, bien-aimé. N'attribuons pas la solution à quelqu'un d'autre qu'à Jésus seul. C'est ainsi que Dieu nous ouvrira des portes toujours. On aura l'impression que notre route est tracée, et c'est ce qui est vrai. On expérimentera le fait que la route est déjà tracée à l'avance. Mais lorsque on est dans le contraire de ce qui est dit là, on a l'impression qu'on force pour tout. On a l'impression qu'il faut bricoler, et ce n'est pas bon. On use de manipulation, et ce n'est pas bon. Mais quand on se laisse bercer, baigner dans la parole de Dieu, on garde fort, on serre le nom de Jésus en nous. On applique la prière. On reçoit la paix de Dieu. C'est ce qui est écrit dans Philippiens 4, 6 à 7. On sait que nos pensées sont gardées en Jésus. Ça veut dire que Jésus s'occupe de l'affaire. Comme j'ai parlé à une dame là-bas en Guyane qui m'expliquait le problème de son fils, j'ai dit, mais tu donnes ton fils à Jésus et tu ne le reprends plus. Tu verras, le Seigneur te gardera dans la paix et t'ouvrira une porte par rapport à lui. Mais lorsque tu donnes et tu récupères encore, tu empêches le Seigneur d'en continuer son action. Il faut garder nos pensées en Jésus. Ça veut dire que Jésus doit rester au contrôle. Il doit rester au contrôle. Lorsqu'il n'est plus au contrôle, mais il n'agit plus non plus. Il doit rester au contrôle. David pouvait tuer Saül. Mais il a dit, non, je ne peux pas, c'est loin de l'Éternel. Dieu reste au contrôle. Il ne l'a pas tué. Et Dieu lui a ouvert une porte. Il a été le plus grand roi d'Israël. Jusqu'aujourd'hui, même le Messie est descendant de David. Cette porte-là est due à quoi? C'est due au fait que David n'a jamais renié son Dieu. Jamais. Donc au moment de tuer Saül, il a dit non, je vais tuer loin de l'Éternel, je ne peux pas. Par respect pour l'Éternel, je ne peux pas. Pourtant l'autre chercha à le tuer. C'est ça. David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Et Dieu lui a ouvert la porte d'être le père du Messie. Un nom. Vous savez, même là, on vient de lire Apocalypse. Jésus se vante de quoi? Il se vante d'avoir la clé de David, parce que David savait marcher avec les portes ouvertes. Je vais vous donner un autre exemple dans 2 Samuel 5. David, avant d'aller en guerre, qu'est-ce qu'il faisait? Il priait toujours. Et là, il prie. Dieu lui dit, ne monte pas pour le moment. Après, Dieu lui dit, tu monteras quand tu entendras le bruit des pas au sommet des arbres. Tu sauras que c'est bon. Et David attend. Quand il a entendu le bruit des pas, il est parti en guerre. Ce n'est pas ce que Saül avait fait. Saül, on dit d'attendre Samuel. Le jour où Samuel fait le sacrifice, là, il part. Il a attendu jusqu'au septième jour donné, mais il n'a pas attendu jusqu'à la fin du septième jour. Il a dit, bon, là, les gens commencent à s'en aller, mes soldats commencent à s'en aller. Moi, je fais le sacrifice. Donc, c'est quelqu'un qui ne connaissait pas la logique des portes. C'est Dieu qui ouvre la porte. Donc, il comptait sur sa force physique et ses gens en lui. On voit la différence. Gédéon, pour clôturer, bien-aimé, Gédéon, il doit s'en aller en guerre. Ils étaient plus de 10 000. Dieu lui dit, mais comme vous êtes plus de 10 000, si vous gagnez, vous allez dire que c'est vous. Alors, on diminue. On a diminué. Il a dit, on diminue encore jusqu'à 300. Maintenant, Dieu lui dit, je t'ai donné la victoire, mais je veux que tu sois sûr de cela. Va faire un petit tour la nuit dans le camp ennemi. Gédéon va avec un serviteur dans le camp ennemi faire le tour la nuit. Arrivé dans le camp ennemi, il entend un soldat qui dit, un ennemi qui dit à un autre, à un de ses amis, ben, j'ai fait un rêve. Je voyais une grosse galette rouler et faire tomber la tente de Madian, ça devait être la tente de décision, quoi, le QG, le quartier général. Un gros gâteau, une galette, rouler et faire tomber la tente, notre tente à nous. Et l'autre soldat lui dit, ah, là c'est certainement l'épée de Gédéon, Dieu lui a donné la victoire sur nous. Gédéon entend de ses propres oreilles que c'est l'ennemi qui confesse que Dieu lui a donné la victoire. Il dit, bon, ça c'est clair. Parce que Dieu me l'a dit, ça n'a pas été suffisant, mais là c'est l'ennemi lui-même qui me dit, donc Dieu m'a ouvert la porte, je peux aller. Mais bien aimé, c'est ça, marcher avec Dieu, c'est beau. Hein? Parce que c'est l'ennemi qui nous dit, mais tu vas nous gagner, tu vas nous battre. Et donc Gédéon savait que c'est bon, là je vais aller, je vais avoir la victoire. Même les ennemis le savent déjà. Et parfois, quand nous sommes attaqués, c'est nos ennemis qui veulent nous dire « Dieu t'a donné la force sur nous. » Mais nous, quand on est attaqués, on se plaint. Alors que c'est justement la preuve que nous avons une autorité sur les gens qui nous attaquent et qui sont mécontents. C'est tout. Pourquoi ils nous attaquent si on était inutile, si on était faible? Ils nous auraient écrasés tout simplement. Mais s'ils ne nous écrasent pas, c'est qu'ils ont senti qu'on avait les déçus. Alors ils veulent nous déstabiliser. Alors, ce sont des choses qui devraient nous donner de la joie, nous donner de la force. Mais nous, ça nous amène à critiquer, à parler mal. Non. Au contraire, on doit se dire, s'il est dérangé autant, c'est parce qu'il y a quelque chose en moi qui a pris le dessus sur lui, quoi. On doit se dire comme ça et continuer notre marche. Mais nous, on s'embête, on lutte et dans le vide. Alors que la porte nous est ouverte et on a la démonstration parce que les ennemis eux-mêmes en parlent. Grandissons bien-aimés et soyons attentifs au Seigneur. Restons accrochés à la prière, communion avec Dieu, la Bible, la parole de Dieu et gardons Jésus comme le centre de tout. Amen. Seigneur, merci de nous aider à te suivre dans ce sens, comme ça vient de nous être enseigné. Que nous arrêtions avec nos planifications charnelle et vaine, que nous arrêtions avec la logique de calcul qui amène même beaucoup de serviteurs de Dieu à vouloir faire des belles prédications, vouloir faire des choses pour étonner, pour épater. Nous refusons cela. Nous voulons tout juste répéter ce que toi tu nous dis. Nous voulons tout juste faire ce qu'il faut. Et nous savons que c'est toi qui ouvres les portes des cœurs, c'est toi qui convainc. C'est toi qui entres dans les cœurs pour parler. Nous n'avons pas besoin d'user de manipulation, d'artifice pour amener quelqu'un à adhérer à notre logique. Mais nous avons besoin de présenter ta parole, de présenter tes projets à toi, Seigneur. Aide-nous à rester simples dans le travail spirituel, à ne pas chercher à attirer le grand nombre, mais à chercher à faire ta volonté, Seigneur. Merci pour ta fidélité, merci pour ta parole qui nous éclaire aujourd'hui encore sur la logique de porte. On retrouve même dans Actes des Apôtres, Seigneur. Ils disent au chapitre 14 que Dieu a ouvert la porte de la foi aux païens. Ça veut dire que c'était fermé, tu ouvres et ça devient évident. Et parfois on avait des projets, on ne savait pas par où commencer. Puis un jour on se rend compte que l'élément qui manquait était juste à côté de nous, mais on ne le voyait pas parce que la porte était encore fermée. Oh Seigneur, merci d'ouvrir les portes pour tes enfants et surtout aide-nous à nous attacher à ta parole, à chercher la communion avec toi et à garder Jésus au centre de tout, au nom de Jésus. Oh Seigneur, que tu te révèles à nous, que chaque jour tu sois notre compagnon de route, Seigneur, chaque jour, dans toutes nos actions, que tu sois notre compagnon de route, même dans les pleurs, que tu sois avec nous, dans les difficultés, que nous puissions vraiment discerner où tu te trouves, parce qu'il est écrit, là où je suis, c'est là que sera mon serviteur, que nous ne puissions pas aller là où toi tu n'es pas, Seigneur, que nous ne prenions pas la direction que toi tu n'as pas prise, que nous ne puissions pas entrer dans les choses que toi tu as rejetées, Seigneur. Que nous ne puissions pas insister là où tu as fermé et que nous ne puissions pas trembler alors que tu as ouvert. Oh Seigneur, aide-nous à discerner ta volonté, à être humble, à être petit pour nous laisser conduire par toi, Papa. Béni soit ton nom, toi le Dieu vivant, le Dieu fidèle. Merci pour ta parole, aide-nous à la mettre en pratique. Au nom de Jésus, nous te bénissons. Amen.